C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette 10e émission des boulons, l'émission des boulonnés. Il s'agit là d'une émission un petit peu spéciale puisqu'on reprend les meilleurs moments de cette année écoulée. Donc dans un premier temps, vous pourrez entendre Monsieur Marlier, directeur du centre hospitalier, interviewé par Fernande et Vanessa. Ensuite, interview de Frédéric Bélanger avant son défi de battre le record de distance en 6 jours en home trainer de 2864 km. Puis, petite pause musicale, deuxième partie d'émission, la rencontre avec les entonnoirs à la ferme thérapeutique, suivie de la chronique de Michael sur les gaz à effet de serre. Petite pause musicale, chronique santé ensuite avec Vanessa, qui nous parle de son vécu de personne atteinte d'une pathologie psychiatrique, puis le bel envol, groupe d'entraide mutuelle présenté par Thomas et Hugo. Et nous finirons bien sûr cette émission par la dernière petite pause musicale. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette émission radio, réalisée dans le cadre d'un atelier thérapeutique en santé mentale par des infirmiers et des usagers du centre médico-psychologique et du centre d'accueil thérapeutique à temps partiel de l'hôpital de Boulogne. L'émission est diffusée le dernier samedi de chaque mois, de 12h30 à 13h30, sur les ondes de Transat FM avec une rediffusion le dimanche de 12h30 à 13h30. Les boulons vous donnent donc rendez-vous le samedi 30 septembre à 12h30 sur les ondes de Transat FM pour leur prochaine émission. Merci et bonne écoute.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Et maintenant, nous sommes dans le studio avec Yves Marlier, directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui sera interviewé par Vanessa et Fernande. Donc vas-y Vanessa, toi pour ta première question à Yves Marlier.
Oui, bonjour. Bonjour Yves, merci d'être présent. Une question. Alors, que pensez-vous de ce projet radio qui incite à découvrir un regard différent sur la psychiatrie? Qu'en pensez-vous?
Bonjour. Beaucoup de choses ont été dites déjà en première partie d'émission. Évidemment, je partage tout à fait les objectifs de ce qui a pu être fait sur la radio Les Entonnoirs. L'hôpital de Boulogne, c'est l'hôpital public. Public. Et l'hôpital public, c'est l'hôpital de tous, c'est l'hôpital du personnel, c'est l'hôpital des patients, c'est l'hôpital de la ville. Et je trouvais que c'était intéressant, moi, quand Jannick Laroche est venu me voir avec ce projet, effectivement, de dire, voilà, on s'approprie le personnel de l'hôpital, mais aussi les patients vont s'approprier l'hôpital, vont s'approprier leur thérapie, vont s'approprier l'ouverture sur la ville de l'hôpital. Et on est tout à fait dans une démarche complète de service public et de ce qui doit être pour moi le service public hospitalier.
D'accord. Fernande, une question pour Yves.
Bonjour Yves. Pourquoi avoir encouragé ce projet?
Alors, comme je le disais juste avant, le fait que les personnels, que les patients s'approprient le projet était un atout. Ça participe aussi d'une grande démarche qu'on avait initiée déjà lorsqu'on a déménagé le centre de psychiatrie il y a quelques années, d'ouverture de la psychiatrie sur la ville, de dédramatisation, décidément, il y aura le gâteau au yaourt derrière, j'en fais un petit peu déjà, de dédramatisation de la pathologie psychiatrique, de montrer que le patient atteint de pathologie psychiatrique, c'est un patient qui est dans la norme. La norme, c'est pas l'uniformité. C'est qu'on peut vivre tous avec nos différences, avec des pathologies, au sein de la même communauté et partager la même citoyenneté.
Voilà, et une question encore, comment avez-vous vécu l'évolution du centre psychiatrique? La différence, parce que avez-vous connu l'ancien bâtiment?
Alors, je suis arrivé au moment où le bâtiment allait se... allait fermer, allait déménager, puisque je suis arrivé en 2010, le déménagement a eu lieu en 2011. Donc c'est le projet donc de déménagement du bâtiment de psychiatrie a été mené par l'équipe de direction et les équipes précédentes. Hein. D'ailleurs, je veux saluer Marie-Christine Paul, Bruno Delattre, qui était quand même un artisan très fort de ce projet. J'ai une pensée toute particulière pour lui, mais aussi pour son épouse qui est dans le studio. Là derrière moi, je sens son regard se poser sur ma nuque. Et vraiment, c'était un projet qui était construit d'abord pour améliorer la qualité hôtelière d'accueil des patients. L'ancien bâtiment n'était plus du tout adapté, mais je pense que ça présidait aussi d'une philosophie, d'une approche de la psychiatrie. Volontairement, lors du déménagement, il y a eu une réduction du nombre de lits de psychiatrie pour faire en sorte que la prise en charge se fasse de plus en plus sur la ville, en ambulatoire, avec un projet d'insertion des patients psychiatriques dans la cité.
D'accord. Parce que moi, personnellement, j'ai connu l'ancien bâtiment et je trouve la grande différence, c'est que le bâtiment nouveau est confortable et esthétique et moderne, entre guillemets, mais je trouve que le soin est différent. Là, les patients là dans le nouvel hôpital, je veux dire, ils sont soignés par des médicaments, mais l'ambiance là-bas a changé. Enfin, je trouve qu'il y a une différence entre l'ancien bâtiment et celui-ci. Et on en reparlera dans d'autres émissions aussi. Mais je voulais savoir. Votre point de vue sur l'évolution, c'est-à-dire le changement de bâtiment, mais le changement de l'image aussi du patient. Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
Si, je comprends très bien. De toute façon, c'est tout à fait l'objectif qu'on recherchait dans toute la démarche qu'on a dans le projet médical, le projet de soins sur la psychiatrie. Moi, je vais me tourner plutôt vers Jadick Laroche, qui était là tout à l'heure, mais sur l'ambiance, sur la manière, sur l'appréhension des patients, effectivement, probablement que des choses ont changé. On sait que l'environnement, forcément, a une influence sur nos comportements aux uns aux autres. Le fait d'avoir un bâtiment effectivement beaucoup plus adapté, qui est notamment ouvert par rapport à l'ancien bâtiment, qui était un bâtiment totalement clos, forcément, ça amène une approche soignante différente. Et c'est vraiment, en tout cas, l'axe fort d'ouverture sur la ville et de normalisation du patient atteint de pathologie mentale qui sous-tendait totalement ce projet.
D'accord. Fernande, une question ?
Oui. Êtes-vous passionnée par votre métier ?
C'est une question de...
Il ne s'attendait pas à cette question là.
Ça me fait tout à fait écho cette question, parce que j'ai l'habitude de dire que je suis arrivé dans les hôpitaux par hasard, parcours, et j'ai l'habitude de dire que comme beaucoup de gens qui arrivent dans l'hôpital public par hasard, on y arrive par hasard, on y reste toujours par passion. C'est-à-dire que je pense que c'est un milieu où forcément, si on n'a pas une empathie, un intérêt, une volonté d'accompagner les gens qui souffrent le plus dans la société, qui sont dans des situations difficiles, sans passion, il est impossible de faire correctement le métier, et quel que soit le niveau. Je pense que toutes les professions hospitalières ont une spécificité hospitalière. Que ce soit ce qu'on oublie souvent, les techniciens, les électriciens, les plombiers, on n'intervient pas dans une chambre d'hôpital pour déboucher un lavabo sans une approche du patient. Je pense que ce contact, cette sensibilité hospitalière, elle est propre, et c'est ce qui fait la grandeur de notre métier. Donc oui, mon métier me passionne, même si on est dans un contexte très difficile, budgétaire, etc. On voit bien que c'est aussi à l'hôpital public, c'est encore un lieu où on peut mener des projets, où on a de l'initiative, où les gens peuvent s'approprier une dynamique et où on réalise des choses ensemble. Et ça reste, tant que ça restera comme ça, je serai passionné.
Merci. Que faisiez-vous avant d'être sur Boulogne ?
Alors j'ai un parcours qui est... Je ne vais pas revenir...
Vous étiez dans le corps médical ?
Toujours été... Les carrières de gestionnaire, de directeur d'hôpital et de médecin sont totalement séparées. Donc nous sommes sur un concours très spécifique qui est maintenant l'école des hautes études en santé publique, qui auparavant, du temps où je l'ai passé, c'était l'école nationale de santé publique. Moi, j'ai eu un parcours... un peu particulier, puisque je suis rentré tout au bas de l'échelle dans les hôpitaux, et je suis un produit de la promotion professionnelle.
Donc et c'est quoi quoi être en bas de l'échelle dans un hôpital ?
En bas de l'échelle dans un hôpital, c'est je suis rentré agent de bureau contractuel.
D'accord.
Donc vraiment le plus bas grade de la carrière administrative. Et donc ça aussi, c'est, je pense que c'est, alors c'est pas le sujet au jour du jour, mais je pense que la santé, l'hôpital public permet, il y a une vraie culture de la promotion professionnelle, de l'accompagnement individuel des agents, aussi parce que la santé est un milieu en perpétuel mouvement. Donc cette culture d'accompagnement dans la compétence et dans la carrière, c'est une vraie carrière, c'est une vraie dominante en tout cas de la fonction publique hospitalière. Et donc pour répondre totalement à votre question, donc juste avant d'arriver à l'hôpital de Boulogne, j'étais directeur des ressources humaines de l'hôpital de Roubaix.
D'accord. Bon, on a vu votre intérêt pour les activités interhôpitaux de football. Quels sont vos projets pour cette équipe ?
Alors, je sais que je vois les sourires autour de la table. Tout le monde est tombé amoureux de mes mollets. Et tout le monde rêve de me revoir en short. En short sur les terrains.
Moi, j'ai pas vu, moi.
Internet, elle a pas vu.
Mais je pourrais les remontrer si un site web, pourrais les montrer sur le plateau à tout le monde. Donc, je suis toujours partant pour reconstituer une équipe de foot. La difficulté, c'est qu'on a une équipe de direction qui s'est beaucoup féminisée ces derniers temps. Et pour l'instant, j'ai cru comprendre que les tournois interhospitaliers organisés par la psychiatrie n'étaient pas mixtes. Mais je suis tout à fait ouvert à reconstituer une équipe qui soit composée de l'ensemble de l'équipe de direction. Et j'espère qu'on s'entraînera mieux que la dernière fois, parce qu'on avait quand même pris 7-0 et ça a été difficile.
Bah merci Monsieur Marlier.
Merci.
Alors, excusez-moi, oui. on vous verra à l'année 2017.
Pour les interrupteurs.
Pour les
interrupteurs.
Pour
le foot.
Mais bien évidemment, je viendrai forcément.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Nous allons maintenant passer à la magie du sport. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Bélanger, sportif boulonnais. Bonjour Monsieur Bélanger.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Bonjour Frédéric Bélanger et merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette rubrique sport. En effet, les boulons ont été intrigués par ce fameux défi, défi que vous allez faire en janvier. On va vous laisser un petit peu expliquer tout ça dans le hall de l'hôpital, sachant en plus, Frédéric, que vous êtes atteint de la maladie de Parkinson. Je vous laisse la parole, allez-y à vous.
Voilà, c'est ça. Donc, je vous remercie de votre invitation déjà. Et donc un défi contre la maladie au mois de janvier, du 3 au 9, comme vous le dites, dans le hall de l'hôpital.
Donc du 3 au 9 janvier, alors ce défi, ça va être quoi ? Ça consiste à quoi ?
Alors ce défi, ça va consister à battre le record de distance parcourue sur home trainer, c'est-à-dire sur vélo fixe, à vélo, pour ceux qui ne s'y connaissent pas.
Oui.
Donc ce record, c'est 2854 km.
D'accord.
En 6 jours.
Voilà. En 6 jours. Donc jour et nuit, alors comment ça va ?
Jour et nuit, soir et matin.
Alors Luc, vas-y, t'as une question.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Qui était le précédent recordman justement ?
Alors, le précédent recordman, c'est Philippe Dieumegard. Monsieur Philippe Dieumegard, qui est un ultra distanceur. Ah, j'ai oublié le nom, enfin bref. Et qui sera là. C'est un de mes conseillers sur c'est là la beauté du sport, c'est-à-dire qu'il a le record actuel et il sera là pour me conseiller ce jour-là.
D'accord. Vous comptez mettre combien de temps à peu près, approximativement ?
Ben, c'est 6 jours là.
6 jours, d'accord. Et pour l'alimentation, comment vous allez faire ?
Alors l'alimentation, il y aura les principaux repas qui seront pris normalement, hein, matin, midi et soir. C'est l'hôpital qui me les fournit. Et donc après, ce sera essentiellement basé sur des compléments alimentaires.
D'accord.
Voilà, qui seront pris directement sur le vélo. Je vais m'arrêter pour les gros repas et après, ce sera pris sur le vélo.
Et le sommeil ?
Alors le sommeil, on part sur une base un petit peu à l'instar des navigateurs, pour qui j'ai un profond respect. Donc on va partir sur 20 minutes toutes les 4 heures.
D'accord.
C'est-à-dire que je m'impose une sieste de 20 minutes toutes les 4 heures, ça va être la base de départ.
Ok. Michel, vous n'avez pas une petite question?
Oui, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez déjà relevé d'autres défis de ce genre?
Oui, oui, j'aime bien ça, les défis, et dans tous les domaines. Et oui, enfin là, c'est particulièrement un gros, parce que je me suis dit au bout d'un moment, il faut que ça se voit, quoi. Donc, et puis l'âge avançant, après l'âge avançant, puis mon état de santé risquant de se détériorer, bon, je dis tant que je peux le faire, je le fais encore. Mais sinon, oui, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? J'ai fait les 6 heures du Pas-de-Calais, les 6 heures vélo sur le circuit de Croix-en-Ternois. J'ai fait l'Altriman des Angles, c'est-à-dire c'est un triathlon dans les Pyrénées Atlantiques. C'est réputé comme le triathlon le plus exigeant au monde. Donc j'ai fait ça à l'époque. Voilà. L'année dernière aussi, j'ai fait pour le Téléthon, j'ai fait 12 heures de vélo d'affilée, etc. Le trail de la Côte d'Opale, évidemment, où j'ai fait. Ouais. Voilà.
D'accord, donc je suppose un petit peu, pour préparer un tel défi, ça demande un entraînement, donc comment vous préparez ça? J'aimerais savoir un petit peu comment vous préparez ce défi.
Alors la préparation, j'y suis depuis le 1er juillet.
D'accord.
Ouais,
voilà. Effet, ça fait, ouais.
La préparation, c'est de la musculation.
Oui.
Je vous donne la préparation globale.
Hein. Oui,
en effet, les détails. Oui. C'est environ 6 heures de musculation par semaine, essentiellement les jambes, un petit peu d'abdominaux, parce qu'il faut que ça tienne sur le vélo. Ensuite, c'est de la natation, pour apporter de la souplesse, de la course à pied.
D'accord.
Que c'est pas ma discipline préférée, mais bon, ça m'est imposé. Et puis j'ai un coach qui est en course à pied, qui est très exigeant, c'est mon petit frère, Marc, que je salue, qui est toujours derrière moi. Lui, c'est un marathonien, donc il m'entraîne, quoi.
Oui.
Et puis bah, du vélo et encore du vélo.
D'accord. Michel, vous avez une question.
En tant qu'amateur de course à pied, je voudrais savoir combien vous faisiez au maximum de distance en course à pied.
Mais moi, je ne suis qu'un modeste amateur par rapport à toi, Michel. Non, mais il faut quand même le dire que Michel, je suis un tout petit sportif à côté de lui parce que...
Non, mais je voulais savoir...
Je tiens à souligner qu'il fait quand même 2h36 au marathon. Quoi.
46.
2h46.
Oui, on en avait parlé d'ailleurs précédemment.
Voilà, donc ça, il faut le souligner. Ouais. Et il est plus fort que moi, largement plus fort que moi. Voilà.
Alors, c'est combien?
Alors, non, mais moi, c'est des petites distances. C'est pour faire le cardio. C'est du 10 km comme maximum. Hein. C'est du 5-10 km le matin, comme ça, en passant. Et puis, voilà, c'est tout.
Oui, mais vous, c'est vivre avec une pathologie.
Voilà, exactement.
Qui est parfois handicapante et vous montrer qu'on peut faire un tas de choses malgré cette pathologie, et ça c'est extraordinaire.
Ben c'est, voilà,
ça encourage les gens à se dire qu'il faut faire du sport, voilà, pour ça. Et c'est ce qu'on dit ici aussi en santé mentale. On veut qu'ils fassent du sport.
Ouais, je vous remercie, c'est justement un des buts de ce défi. C'est de dire que malgré la maladie, on peut encore faire plein de choses.
Voilà,
bien sûr, on peut vivre et faire plein de choses.
Tout à fait. Et ça, vous avez raison de le souligner. Et je veux dire, au-delà, bon, évidemment, faire un marathon ou faire 6 jours de vélo, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Mais je prends par-delà l'activité physique. Quand on est malade, je veux dire, une partie de boule. Avec les amis, ça compte.
Bien sûr.
C'est de l'activité physique. Du jardinage, c'est de l'activité physique.
Oui.
Vous voyez, donc là, on prouve par notre action, nous, par mon action, que bon, certes, on peut faire des grandes choses, mais on peut faire aussi des petites choses de tous les jours. Le principal, c'est de bouger, de bouger, de bouger, pas laisser s'installer la maladie.
Bien sûr.
Oui, tout à fait. Hein, c'est un petit peu aussi le sens aussi des boulons, hein, c'est justement de montrer qu'il y a possibilité de faire des choses malgré les maladies et de continuer dans ce sens-là. Et c'est pour ça, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on souhaitait que vous soyez là, pour justement partager ça. Voilà. Quelle que soit la maladie, on peut, si on a de la volonté, si on est bien entouré, on peut continuer à avancer.
Voilà. Et au-delà du bienfait physique, il y a aussi le bienfait moral. C'est-à-dire qu'avec le sport, moi j'ai été mis à l'écart de la société par le monde du travail, parce qu'on m'a dit t'es plus bon à rien, donc dégage, c'est comme ça que ça se passe.
Oui.
Et donc grâce au sport, on continue d'avoir un lien social, et ça c'est super important, on continue d'aller vers les autres, on continue de voir plein de monde, et de tous horizons. Hein, sur une course à pied, on est tous en short, et on côtoie aussi bien l'ouvrier que l'avocat, quoi, donc... ça c'est super important.
Et grâce à votre défi, vous participez à l'émission des Boulons, ce qui est génial.
Et ça c'est génial, tout à fait.
Petite question très pratique. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Qu'est-ce que vous avez prévu comme repas en tant que sportif?
Aujourd'hui, comme repas?
Pour ce soir, pour le réveillon.
Je vais changer, je vais me faire une petite folie. Je vais manger des pâtes.
Même pas agrémenté d'un soupçon de foie gras.
De saumon. Je vais carrément être fou, je vais mettre un petit peu de parmesan.
Oh là 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 là. Est-ce bien raisonnable?
Les pâtes, c'est vraiment le plat des grands sportifs. Hein. On est tous adeptes des pâtes quand on a fait beaucoup de sport.
Oui, il n'y a pas que les pâtes, il y a le quinoa aussi. Tout à fait. Ces choses-là. Ouais. Mais moi, je suis plutôt préparation à l'ancienne. C'est-à-dire que vous n'allez pas me voir là-bas, même sur le vélo, avec des tubes de gel, des choses comme ça. Je veux dire, je suis plus. Ça va aussi bien le fruit sec, le bon vieux pruneau, le bovien abricot sec. C'est aussi bien que toutes ces. De ces petits trucs.
Le pain d'épices?
Ouais, c'est pas trop mon goût.
Ah, c'est fort le truc.
Un petit peu quand même, ouais.
Le chocolat aussi est autorisé?
Ouais, ça c'est fortement conseillé.
Oui.
Les quartiers d'orange?
Non, ça tâche.
Ah bon, d'accord.
Michel, encore une petite question?
Non, j'avais pas d'autres questions.
Alors. Vas-y, Michel. Vas-y, si t'as une question. Non?
Non, c'est bon.
C'est bon?
Non, c'est bon.
Michel, il veut qu'on aille courir ensemble.
Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème.
Je pense qu'il y a un rendez-vous de prix, là, c'est bon. Ouais.
Donc, on vous retrouve, rappelez-nous les dates, Frédéric, on vous retrouve.
Alors, du 3 janvier midi, oui. Au 9 janvier midi, voilà.
Et puis, ça se passe dans le hall de l'hôpital.
Dans l'hôpital, tous ceux qui veulent venir pédaler à mes côtés peuvent venir. C'est-à-dire qu'il y a deux vélos qui seront mis à disposition par notre partenaire.
Oui.
Qu'on peut citer d'ailleurs, qui est GoSport, la cité de l'Europe à Calais. Oui. Et donc voilà, donc il y aura deux vélos qui seront à disposition et tout le monde pourra venir pédaler et m'accompagner. Voilà.
Alors moi je suggère que Michel aille faire un petit tour.
Oui, il n'y a pas de problème. Justement, le 3 janvier, c'est mon anniversaire.
Oh, formidable.
Oh, bravo. Quel cadeau, il va aller pédaler.
Ben, Michel, ta place est réservée, ta place est chaude.
Je te remercie.
Bah écoutez, merci beaucoup Frédéric d'être venu. C'était avec un grand plaisir qu'on vous a reçu sur le plateau des Boulons.
C'est moi qui vous remercie.
Merci bien.
Merci,
au revoir.
Au revoir. Merci à tous et gardez la pêche.
Les Boulons. Les Boulons. Les Boulons. L'émission des Boulonniers.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Faudrait changer les héros
dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Au plus fort de la musique.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour, bienvenue à la 7e émission des Boulons, l'émission des Boulonnais. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Margot. Bonjour Margot.
Oui, donc c'est moi Margot. Bonjour Anessa. Donc je fais partie des Entonnoirs.
Oui, donc vous êtes tous venus aujourd'hui, hein, une belle équipe, hein,
oui,
de ce temps.
Oui, c'est ça.
Donc on est heureux aujourd'hui de vous accueillir.
Oui, vous nous avez invités dans votre studio.
Dans une ferme pédagogique en campagne avec un cadre idyllique.
Hein, formidable, formidable.
Ouais, on a passé des bons moments. On a passé des bons moments. Donc il y a beaucoup de monde.
Oui, donc il y a moi-même Margot, donc il y a Serge.
Serge, Bruno,
Arnaud,
Benoît,
Malika,
Anissa.
Ahmed.
Christopher, Ahmed.
Voilà. Donc on a de la chance d'être ensemble
et
Erika. Aujourd'hui.
Erika, oui. Ah. Et Ben. Ben à la technique, quand même.
Présent.
Ah, voilà. Entendu. Et donc, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Alors, moi, je voulais déjà vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Donc, il y a, je dirais, une année et demie, hein, Yannick. Et puis, Steph, hein, qui est là-bas. Qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission un peu exceptionnelle. On était allé vous rencontrer, vous nous aviez accueillis, vous nous aviez ouvert les bras. En effet, nous avions le souhait de lancer une émission et c'est quelque chose qui n'a pas été évident. Et je le dis à chaque fois que je peux, si les Entonnoirs n'avaient pas été notre soutien, je ne sais pas, hein, Yannick, ce que tu en penses, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui...
Qu'on existerait.
Voilà. Mmh. Donc vous, ça fait 12 ans que vous tournez. Mmh. Nous, ça fait 6 mois aujourd'hui. Hein, c'est notre 7e émission, donc au préalable de ces 6 mois, il y a eu 2 ans de travail, hein, il a fallu rechercher des fonds, il a fallu mettre en place, et on avait démarré avec 5 usagers, dont Vanessa qui est encore là,
oui.
Et je l'expliquais encore tout à l'heure à Ahmed, à chaque fois qu'on faisait les ateliers, même si on n'avait pas de radio à l'époque pour diffuser, eh ben, vous nous remontiez le moral, on finissait l'atelier, on se disait on ne peut pas abandonner, on ne peut pas baisser les bras, il faut continuer. Et voilà, aujourd'hui, notre récompense, c'est de pouvoir vous accueillir au niveau de cette ferme thérapeutique, et de pouvoir faire un enregistrement avec vous, puisqu'on était allé vous rencontrer à 3 reprises.
Oui.
Et on avait fait 2 émissions. Vous nous aviez permis de prendre la parole sur 2 de vos émissions. Et là, c'était la moindre des choses de pouvoir vous accueillir ici. Voilà, donc c'était le petit mot que je voulais quand même donner. Je rappelle que ça fait partie donc d'un atelier thérapeutique et que voilà, ce qu'on souhaite, c'est que cette émission puisse durer le plus longtemps possible.
J'aimerais dire l'image, c'est comme un bébé qu'on apprend à marcher, quoi. On le tient et hop, il commence à marcher. Bah vous, c'est pareil, quoi. Vous nous avez donné l'exemple que des patients de psychiatrie peuvent prendre la parole. Donc, merci à vous.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, ça fait 6 ans que je suis donc aux entonnoirs. Et donc, c'est un infirmier qui m'a fait rentrer aux entos, parce que j'étais pas du tout... J'étais quelqu'un de réservé, d'hyper timide. Là, aujourd'hui, là, parler comme ça, maintenant, c'est facile pour moi. Mmh. Avant, ce n'était pas facile. Mais maintenant, ça devient facile. Tu verras, Vanessa, après, ça va devenir tout seul, tu vas plus avoir la peur en toi, quoi, en fait. Hein, ça va venir tout seul.
Je crois que Vanessa, aujourd'hui, elle est très impressionnée par le monde parce que les gens ne le voient pas, mais il y a beaucoup de monde dans cette pièce aujourd'hui.
Ouais,
on n'a pas l'habitude, on a une petite pièce moitié de ça, et d'habitude, on est moins nombreux. Donc, je pense que Vanessa, parce que d'habitude, elle parle très, très bien.
Oui.
Je vois qu'elle
est un peu angoissée aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que c'est impressionnant d'avoir des professionnels maintenant en face de nous. Enfin voilà, mais bon, ça va, je vais bien.
Oui, mais il faut quand même souligner quand même qu'on a quand même un technicien Ben, quand même.
Ouais, bravo Benoît.
Qui est là pour nous dire, qui nous a appris des choses quand même, hein, Ben. Ah. Tu es bien d'accord avec moi quand même.
Mais c'est un plaisir, je suis là pour ça. C'est normal.
Voilà, donc Arnaud, donc Serge.
Bonjour à tous. Merci Boulogne de nous avoir accueillis. Nous, aux entonnoirs, nous sommes une petite équipe. Et puis, moi, ça m'a beaucoup enrichi et on parle de plusieurs sujets. Chacun a ses sujets bien précis, quoi.
C'est le jardinage, toi, non?
Comment?
C'est le jardinage.
Je peux parler je peux parler de mécanique, je peux parler de jardin biologique, je peux parler de nourriture, d'aboussifaille, je peux parler d'autres choses, quoi. Et beaucoup de musique.
Et de musique, j'allais dire.
Donc Arnaud, tu as
quelque chose? Alors moi, enchanté de vous connaître tous. J'ai commencé au mois d'octobre dernier. Ça m'a plu. J'ai progressivement pris des initiatives, des responsabilités dans la radio Les Entonnoirs. Au départ, j'ai animé la chronique météo. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire quelque chose qui me plaît. Et j'ai voulu animer une chronique sur l'art en général. Donc, je parlais des époques, des courants d'art, l'art moderne, l'art ancien, tout ça. Et puis, je me suis demandé si j'allais continuer. Je me suis dit qu'il faut toujours continuer. Il ne faut pas toujours garder les mêmes choses. Et donc, cette fois-ci, je vais essayer de faire quelque chose au niveau de ce qui va toucher les grandes inventions. Donc, voilà.
Voilà. Donc Malika,
oui. Moi, il y a un petit moment que je fréquente les entonnoirs, c'est un patient du club, des clubs thérapeutiques, il m'a dit si tu fais pas de la radio, je disais non, je fais pas de la radio, on va voir là une des journaux, c'est quoi la radio, c'est quoi les entonnoirs, et voilà, et je suis restée. Et je fais une chronique, la météo,
voilà. Que
j'ai choisi. Voilà.
Donc voilà, Ahmed, tu peux nous parler un petit peu des entonnoirs, parce que là depuis le début des entos.
Pas que moi.
Oui, il y a aussi Erika.
Voilà. Et... D'abord, merci à l'équipe du Boulon, les Boulons. Je pense que si le soin perdure, continue dans ce type d'atelier, s'il y a encore de petites radios, de petites émissions qui se créent, ou d'autres originales où on peut créer, on sera tous ravis, soignants comme patients. Donc là, on a un consensus, on est d'accord. Hein. Et on vous souhaite bonne route, comme nous, puisque ça fait 12 ans, effectivement. Vous êtes à 6 mois, mais ne perdez pas de patience, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres radios sur la région qui peuvent aussi se créer. Je pense qu'il faut aussi que ce soit un exemple. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est... pour n'importe quel patient comme soignant, que c'est un passage, on est là, on vit une expérience, on vit des bons moments de plaisir, et après, on fait autre chose, on passe à autre chose, et on décolle, on va vers un ailleurs, hein, qui est peut-être plus riche, ou l'occasion de rencontrer, l'occasion de discuter, l'occasion de prendre la parole, parce que la parole, il faut toujours la prendre. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui la prenne pour vous. Et je parle aussi pour moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui parle pour moi. Donc je pense qu'il faut continuer, et il faut que les autres personnes qui sont malades continuent aussi dans ce sens-là.
Voilà, voilà.
Oui. Exactement, exactement. Fernande, est-ce que tu veux dire un petit mot?
Oui. Ma petite Fernande.
La table, voilà. Fernande, je fais partie du projet depuis le début.
Ouais.
Bon, bonjour, je suis Fernande. Merci les entonnoirs de passer la journée avec nous. On est très contents.
On a eu une belle journée ensoleillée.
Une belle journée avec du soleil.
Et de la bonne humeur.
La bonne humeur et puis bonne continuation.
Oh, puis on ira, hein, Janik?
Ah oui, il faudra revenir.
On va revenir vous voir.
J'ai oublié de parler de Luc qui a la technique.
Merci.
Ah oui, Luc, même. Luc.
Alors, mets bien le micro devant ta bouche, parce que là, j'ai du mal à t'entendre.
Là,
merci.
Je viens le ramener, voilà. Donc, je disais Luc, hein, qui nous a rejoint, puisque Stéphanie est partie vers d'autres horizons. T'es arrivé à Lille, d'ailleurs.
Ah.
Et donc, Luc nous a rejoint dans le projet, et voilà, on fait équipe à trois.
Et c'est un plaisir.
Voilà. On passe de bons moments.
De partager avec vous.
Voilà, ben c'est super, hein, hein.
Voilà. Donc là, on va laisser la parole à Michael pour nous parler de sa passion. Il adore Evelyne Delia, il adore la météo. Donc voilà, vas-y Mika, à toi de jouer.
Bah, en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler comment limiter les gaz à effet de serre. Donc d'abord, c'est quoi les gaz à effet de serre? C'est tout simplement dû à l'accumulation de CO2, plus précisément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et qui malgré tout a beaucoup de mal à s'éliminer à cause de l'industrie.
La pollution.
Voilà. Et donc, je vais vous donner quelques exemples simples à effectuer pour limiter ces gaz à effet de serre. Alors d'abord, il faudrait déjà éteindre les lampes des pièces inoccupées, prendre une douche plutôt qu'un bain, sachant qu'il ne faut pas rester plus de 3 minutes sous la douche. En plus de ça, vous ferez des économies d'eau.
Ah.
Surtout éviter de laisser en veille les appareils audiovisuels, pardon.
Qui consomment malgré les chargeurs de téléphone portable.
Ou alors les télévisions en veille, ordinateurs en veille, voilà, ça serait préférable de les éteindre. Surtout ne pas chauffer les pièces de la maison qui ne sont pas utilisées.
Mm-hmm.
Voilà. Et par contre, dans les pièces chauffées, il serait préférable de fermer les portes et les rideaux pour bien conserver la chaleur et pour que ça chauffe mieux. Mm. Et surtout, remplacer les ampoules classiques par des ampoules à économie d'énergie.
D'accord.
Voilà, et donc ces exemples sont pour l'instant pour le domicile, à la maison. Voilà.
D'accord.
Après, il y a des exemples en dehors du domicile, comme pour les véhicules. Donc par exemple, il faudrait éviter d'utiliser l'air conditionné dans la voiture et pratiquer l'éco-conduite. Ensuite,
Maintenant, avec l'évolution des automobiles, il y a les voitures à
voitures électriques
ou à gaz, hein, aussi.
À gaz naturel, ouais. Comme les bus. Maintenant, ils fonctionnent au gaz naturel. Donc, normalement, tout ça, ça devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95%.
Ah ouais, quand même.
D'ici 2050. Par rapport à la quantité émise en 1990, là où il y a eu le début de l'industrie.
D'accord.
Et donc, alors au final, cet objectif, il est réalisable à condition d'entreprendre d'urgence des actions d'envergure, et ce, à tous les niveaux. Donc, si je dis tout cela, c'est pour limiter les conséquences négatives des changements climatiques qui, d'après les scientifiques, le réchauffement de la Terre ne peut pas dépasser 2 degrés par rapport au niveau de température d'avant la révolution industrielle. Mais malheureusement, on se dirige cependant de plus en plus vers le seuil critique de 1,5 degré. Wow. Voilà.
Donc, d'accord.
En tout cas, ce qui pourrait être sûr, c'est que normalement, on devrait pouvoir déjà de réduire ses émissions de 30%. En tout cas, ce qui est sûr.
D'accord. Donc, à nous de contrôler ce qu'on fait.
Voilà.
Voilà, de réagir face à la planète. Voilà, bah merci Mika.
J'avais une petite question pour Mickaël, donc ce sujet est très intéressant. Et moi j'en profite pour dévier un petit peu, parce que tu parlais d'eau tout à l'heure. Et moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la chasse d'eau, c'est 5 litres, c'est de l'eau potable. La douche, pareil, c'est de l'eau potable. Donc bon, ça dévie un petit peu de ton sujet, mais ça reste quand même quelque chose pour la planète et c'est une réflexion à avoir.
Très bien.
Toujours en compagnie des boulons. En compagnie des boulons. L'émission des boulons. L'émission des boulons. L'émission des boulons.
Come on.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Alors, on passe à quoi, Fernande, là ?
Alors, c'est la rubrique santé avec Vanessa. À toi, Vanessa.
Bonjour, Vanessa.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, Vanessa.
Bonjour, Cédric.
Alors, Vanessa, peux-tu te présenter, déjà ?
Alors, oui, donc, je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans. J'ai 2 enfants, je suis à la recherche d'un emploi et je fais partie de cette charmante équipe.
D'accord, donc Vanessa, tu souhaitais aujourd'hui parler de ton histoire et plus particulièrement de ton vécu de personne atteinte d'une pathologie psychiatrique.
Oui, en effet, je souffre de ce qu'on appelle la schizophrénie.
Est-ce que tu peux donner un petit peu de précision par rapport
Alors,
à la schizophrénie ?
Alors, la schizophrénie, d'après un mot grec, signifie « trouble de l'esprit ». C'est une maladie très difficile à vivre pour ceux qui en souffrent et ceux qui nous entourent.
Oui, et en effet, hein, si on précise un petit peu, hein, c'est une maladie psychique grave qui s'accompagne d'une perte de contact avec la réalité.
Oui, hein. Tout à fait.
Des délires, entre autres, ainsi que des modifications de la pensée, du langage et du comportement. Il faut savoir, Vanessa, que cette maladie touche 1% de la population, à savoir, en France, 600 000 personnes. Alors, les symptômes, Vanessa, c'est quoi ?
Alors, moi, les symptômes, pour mon cas, c'est du jour au lendemain, d'entendre des voix. Même si je suis seule dans une pièce, j'entendais, j'insiste bien sur le verbe passé,
oui.
Je n'en souffre plus, c'était être en dehors de la réalité, d'entendre...
D'entendre ces voix qui n'étaient pas, donc, en effet, la réalité. En effet, toi, c'était des voix, mais il faut savoir que ça peut être aussi des hallucinations visuelles pour d'autres. On va retrouver un comportement désorganisé chez la personne, hein, et une absence d'expression, d'émotion, des problèmes de concentration. À quel âge tu es tombée malade, toi ?
Alors, je suis tombée malade à 20 ans.
Oui, à 20 ans.
Après plusieurs semaines d'insomnie, j'ai commencé à avoir des hallucinations auditives.
Oui.
J'entrais dans un état de démence, ce qu'on appelle aussi une décompensation psychotique.
Oui.
Je n'étais plus vraiment dans la réalité et je ne m'en rendais pas compte. Donc, ma mère inquiète m'emmena chez le docteur généraliste qui m'a prescrit de la mésothérapie. Ce sont des injections sur le front à base d'un produit à base de plantes pour se recanaliser, se calmer.
Oui.
Voyant que mon état ne s'améliorait pas, je suis hospitalisée pour la première fois en psychiatrie à l'âge de 20 ans. Sachant que j'ai connu 3 épisodes dans ce centre de soins.
Oui.
Les symptômes sont difficiles à croire. C'est donc des voix qu'on entend et...
C'est des voix, toi, tu m'avais évoqué la télé, entre autres.
Hein, oui, je me souviens aussi.
Tu avais l'impression que la télé
s'adressait
à toi. Hein, C'est en effet un thème de référence, hein, on appelle ça.
Oui.
Hein, donc en effet, avoir ce sentiment que la télé nous parle, les titres de journaux, etc.
Oui, il n'y a pas que la télé qui nous parle.
Voilà,
aussi,
exactement. Hein. Bon, après, il y a différents thèmes au niveau des délires. Hein. Il y a des délires, ça peut être d'influence, voilà, il y a un tas de choses. Hein. Des délires de grandeur. Bon, et quand tu parles de l'âge, donc toi, c'est arrivé à 20 ans. En règle générale, en effet, cette maladie touche les jeunes, se déclare donc chez l'homme entre 16 et 25 ans et chez la femme en règle générale entre 16 et 35 ans. Hein. Donc tu as évoqué ton hospitalisation, hein, donc à 3 reprises. Donc à 3 reprises tu as été hospitalisé. Donc Vanessa, on a convenu ensemble, hein, que lors de la prochaine émission, on discuterait de ça, hein,
oui.
De cette hospitalisation, pour que tu puisses un peu exprimer ton vécu. Donc,
Alors, je voulais profiter de dire mon ressenti par rapport à la psychiatrie.
c'est que c'est déjà un hôpital de soins, que ce soit mental mais aussi confort. On est surveillé, entre guillemets, dans le beau sens, dans le bon sens. C'est-à-dire que les infirmiers s'investissent dans leur prise en charge, que le patient se sente bien. Par exemple, le dialogue est beaucoup présent et quand on est en souffrance, ils savent donner les mots pour nous rassurer. Le soin ne se fait pas qu'avec des médicaments. Pour occuper nos journées dans un espace clos, l'ergothérapie
oui,
fait beaucoup de bien.
Oui, l'ergothérapie, en effet, ouais.
Donc c'est un endroit où on peut s'exprimer par diverses activités, le dessin, la peinture, les créations d'objets. Et on est souvent fiers de ce qu'on arrive à faire. Malgré la maladie, le manque de concentration, on réussit à faire de belles choses.
D'accord. On pourra bien détailler tout ça à la prochaine émission.
Oui, bien
sûr.
On
refera un petit temps là-dessus, hein, on refera une chronique et on expliquera bien comment se passe une hospitalisation. Et puis tu pourras profiter de ce temps pour justement en discuter et informer les auditeurs de l'hospitalisation.
Très bien.
Merci à toi Vanessa.
De rien, merci Cédric.
Merci Vanessa pour ce témoignage qui est rempli d'émotions.
Oui.
Vraiment, et ça c'est extraordinaire parce que voilà, elle est ici avec nous et elle partage tout ça et c'est vraiment super. Et donc on ne peut que parler derrière ça du bel envol, hein. Voilà. N'est-ce pas Hugo et Thomas qui vont nous présenter leur association. Bonjour Hugo, bonjour.
Bonjour,
Thomas.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Rebonjour. Oui. Donc oui, on voudrait vous présenter le bel envol. C'est un groupe association loi 1901.
Oui.
Et donc la vocation c'est d'accueillir les malades psychiques. Donc usagers de la psychiatrie,
stabilisés aussi.
Stabilisés oui. Surtout, oui. Ça. Donc notre vocation, c'est de devenir un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. Donc les GEM, ce sont des structures d'accueil pour les malades psychiques. Donc dans ces structures, on organise des activités pour passer des bons moments ensemble. Et retrouver une place dans la société, se remettre dans la société sans discrimination et accepter en fait son handicap en faisant marcher un peu nos connexions entre nous.
Le lieu, c'est avant tout un lieu de convivialité, d'écoute, de compréhension. Et voilà, il y a un terme légal qui est le groupe d'entraide mutuelle. Pour l'instant, on n'a pas encore l'agrémentation, mais bientôt... on pourra employer un éducateur qui sera... C'est un groupe autogéré, en fait. C'est
oui,
les patients...
pas encore tout à fait. Maintenant,
ouais,
l'éducateur,
on espère avoir un lieu aussi.
Oui, on espère aussi avoir des locaux. Quand on aura cette agrémentation GEM, ça veut dire qu'on organisera des permanences tous les jours, organiser les repas, pris en commun le dimanche midi. Donc, c'est vraiment une structure qui veut vraiment... fidéliser et concrétiser les liens
sociaux.
Les liens sociaux. J'avais juste une question. Donc à aujourd'hui, vous fonctionnez comme un GEM, même si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore l'agrément, vous n'êtes pas encore reconnu.
On est déjà une vingtaine de personnes.
Voilà, j'allais justement vous demander un petit peu combien vous étiez et ce que vous y faisiez comme type d'activité. Il y a des choses.
Toutes les semaines, il y a du sport en fait, un sport adapté à chacun, un sport doux avec un coach, c'est Yann Pochet, avec un coach sportif.
Center training
de break.
Oui.
Il y a des cours de sophrologie aussi, de la relaxation par le souffle. On fait de nombreuses marches à l'extérieur aussi,
oui.
Avec une coach aussi qui nous fait du stretching.
Oui, c'est Hélène.
Hélène
Mathieu. Bonjour à elle.
On a également participé à des ateliers de cuisine.
Oui.
On apprenait à faire la cuisine de façon saine.
En fait,
saine.
Tout l'axe central, un des axes centraux avec lesquels on s'est organisé, c'était manger, bouger avec un handicap psychique.
D'accord.
Parce qu'on est parti du principe que, bien souvent, on a un petit budget.
Oui.
La hache, c'est quand même pas...
C'est sûr.
C'est pas ce qui permet de vivre comme on a envie, tout
oui.
le temps. Et donc, on est parti du principe qu'en plus, avec les médicaments, bien souvent, il y a le problème de la prise de poids. Ça, je crois que ça nous est arrivé à bien bon nombre d'entre nous.
Oui.
Et donc, on veut se réapproprier vraiment notre personne, notre
corps.
Notre corps.
Corps.
Ouais. et donc avec une meilleure estime de soi, une acceptation de soi avec la maladie et la souffrance qui va avec.
C'est donc un excellent programme. Hugo et Thomas, je crois que vous êtes le président et Thomas le trésorier.
Oui, c'est ça.
Vous êtes très actif.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que vous êtes aussi dans le groupe des Boulons, l'émission des Boulonnais, où vous êtes aussi très actif. Et c'est du sport hein, aussi à la radio, hein, vous pouvez le dire. Nous vous remercions d'avoir participé, d'avoir présenté le bel envol. Oui. Et maintenant,
On pourrait vous dire aussi un peu aux auditeurs que on est en partenariat avec l'hôpital.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Ça, c'est vrai. Bien sûr, bien évidemment.
Et les CMP, bien entendu.
Et les CMP, voilà. Bien évidemment. Et que vous avez invité aujourd'hui parmi nous dans l'Assemblée, on a invité Marie-Ange qui fait partie du Bel Envol aussi.
Oui.
Bonjour Marie-Ange, qui peut-être Marie-Ange viendra nous rejoindre.
Oui.
Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais la de 1, je joue de la musique.